Alors, vous avez le titre ici, le caractère de Joseph en contraste avec celui de ses frères. Et puis, cette référence en Jacques chapitre 3. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Dans le monde, comment est-ce qu'on montre son intelligence? C'est souvent dans des concours ou des résultats intellectuels, ce qu'on sait dire ou faire. Mais par rapport à la Bible, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. J'ai choisi ce verset parce que je trouve que ça montre bien le contraste entre Joseph et ses frères. On a les deux dans ces versets. Alors l'objectif de la leçon, comprendre l'incapacité des frères, des frères de Joseph à reconnaître son rôle de leader spirituel. Identifier les réactions qui causent la dissension entre des personnes qui ont toutes les raisons de s'entendre. Ils étaient frères. Alors, ouvrez vos Bibles à Genèse 37. Et cette section qu'on va lire ensemble passe des détails de la lignée d'Ésaü. Juste avant, le chapitre 36 nous parle d'Ésaü, le frère de Jacob. « Aux générations de Jacob ». Vous voyez ça au 37, verset 2. Et quand on avait fait la série sur Genèse 1 à 11, on a vu que ça revient plusieurs fois. Chaque fois qu'il commence une nouvelle histoire, on a ce mot « génération », « génération 2 ». Donc ça, c'est une nouvelle section dans le livre qui s'ouvre. Et on va avoir un aperçu plus complet des relations des fils de Jacob à l'intérieur du foyer. Comment ça va à l'intérieur du foyer? Et la façon que ses frères se comportent, et la façon que Joseph aussi se comporte. Et le récit de Genèse, ici, commence à porter notre attention spécifiquement sur ses frères, et va identifier pour nous les causes du conflit entre Joseph et ses dix frères, qui va entraîner la suite de l'histoire que vous connaissez, j'imagine. Jacob a maintenant 108 ans, et Joseph en a 17. Et ils vivent dans le même pays qu'Isaac. Alors c'est important de noter que Isaac ne mourra que 12 ans plus tard. Donc juste avant que Joseph va être présenté devant Pharaon. C'est là que son grand-père va mourir. Mais l'auteur de Genèse nous a déjà parlé de sa mort, parce qu'il parlait d'Isaac, donc il nous a déjà parlé de sa mort, mais là c'est comme s'il recule, qui souvent dans des histoires, maintenant il recule dans le temps, pour nous parler de Joseph. D'accord? Donc dans ce passage, nous allons voir trois facteurs ici, qui mènent à ce que Joseph appellera plus tard sa peine et son affliction. Est-ce que quelqu'un peut lire Genèse 41 et les versets 51 et 52? Ça nous donne un aperçu de ce que Joseph pensait de ce temps. Genèse 41, 51 et 52. Qui peut lire ça? Geneviève? Merci. Bien fort.
Mon premier-né, le nom de Manassé, par qui il je m'avais oublié toutes mes peines et toute la maison de mon père. Et il donna au second le nom d'Éphraïm, en dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays.
Voilà. Donc, Dieu lui a fait oublier quoi? Toutes les peines qu'il a connues. Il le voit comme difficile. Même en regardant en arrière, c'est des peines. Et quand il pense à son arrivée en Égypte, qu'est-ce qu'il dit au verset 52? Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Donc, c'est difficile pour lui, ce qu'il va vivre. Même dans sa jeunesse. Il peut regarder en arrière et dire, mon adolescence était affliction et peine. Mais il voit la main de Dieu dans tout cela. Donc, il va commencer à montrer son leadership et ce leadership va être rejeté. Alors, j'aimerais lire Genèse 37, les versets 1 à 11. Peut-être vous les avez déjà lus. Je vous ai encouragé dans le mail. Mais qui pourrait nous lire tout ce passage? 37, 1 à 11. Olivier? Ok, merci. Bien fort et suivant dans nos Bibles. Genèse 37, 1 à 11. Merci. Donc, la première chose que vous avez, le numéro 1, c'est le caractère de Joseph. Est-ce qu'on peut donner un adjectif pour le mot caractère? Comment décrire son caractère? Le caractère de Joseph. Ok, sage. Ouais, c'est bien. D'autres mots? Oui, spirituel, sensible, humble aussi, pour dire ça. Ouais. C'est bien. Je crois qu'on le sent déjà, son caractère. Le mot que nous avons ici, c'est le mot intègre. Intègre, que vous pouvez mettre dans le trou. Alors, on le voit de plusieurs façons, son caractère intègre. Et la lettre A, c'est souligné par les Écritures ici, par son âge. Âge, c'est le premier trou, la lettre A, c'est démontré par son âge. Je crois que c'est amplifié par l'inclusion du détail de l'âge de Joseph. Il a quel âge? Il a 17 ans. Il a 17 ans. Son frère Ruben, qui est le plus âgé, n'a probablement que 24 ans à cette époque. Joseph vit depuis 10 ans maintenant avec son grand-père, près de son grand-père Isaac. Il avait 6 ans, c'est Maxime qui nous a dit ça la dernière fois, il avait 6 ans lorsqu'ils ont quitté Laban. Donc il est entouré de son père, son grand-père, ses deux patriarches, et il commence à grandir dans la foi et dans la connaissance. On peut imaginer, ces temps passés avec son grand-père, Isaac, et qui lui parlait de son père à lui, Abraham. Donc il y avait certainement un lien très étroit jusqu'à Abraham. C'est démontré aussi dans la lettre B, dans ce cadre, c'est ça le mot qui manque, dans ce cadre particulier dans lequel il travaillait. Et le verset là que vous pouvez noter, c'est le verset 2A. Dans le cadre particulier dans lequel il travaillait, le verset 2A, il dit « Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. » Qui n'est pas mentionné là, dans ce verset? Oui, les enfants, je crois que tu l'as dit, je t'ai pas entendu, mais les enfants de Léa. Et ces deux femmes-là sont en fait des concubines de Jacob. Et Joseph travaille avec eux. Alors, on va imaginer un peu. Pourquoi il n'y a pas les enfants de sa première femme? Qui s'appelait comment? Léa, merci. Son nom m'a quitté. Elle avait six garçons. Elle avait six garçons. Entre ces deux, il y en a quatre. Bon, on peut imaginer qu'il y avait probablement déjà des difficultés dans la famille. Il soulignait que Joseph va travailler avec ses demi-frères-là. Et probablement que Joseph supervise même leur travail. Hein, parce que, faut se rappeler, il est le fils aîné de sa femme préférée. Et eux, ce sont des fils des concubines. On sait bien qu'à l'époque, et même par la suite, tous les enfants n'avaient pas la même statut ou importance, même dans le foyer. Donc, c'est difficile d'imaginer qu'ils travaillaient comme des égaux. Probablement, Joseph déjà avait une position d'autorité au-dessus de ses demi-frères. Bon, on ne sait pas si ça se faisait tout le temps, mais en tout cas, dans cette circonstance, c'est comme ça qu'il travaille. Jacob a peut-être délibérément séparé Joseph des fils de Léa. On sait que quand ils sont revenus dans le pays de Canaan, il avait déjà fait ça, il avait déjà séparé ses enfants de groupe, et puis ils avaient séparé par femme. Et probablement, comme encore aujourd'hui, quand un homme a plusieurs femmes, les enfants vivent séparément avec leur propre mère, et ne se côtoient pas forcément tous ensemble. Des lieux de résidence différents. Et on sait aussi que Jacob avait une connaissance de leur cruauté et de leur méchanceté. Maxime n'a pas encore eu le temps d'en parler, mais il y a l'histoire de Dina. Et ces deux frères de Dina, qui s'appellent... On a deux garçons dans cette église qui ont ces noms. Lévi et Siméon, voilà, qui sont extrêmement cruels pour protéger l'honneur de leur sœur. Et on sait que Jacob est blessé par ce qu'ils font sans le consulter, etc. Et on a aussi un aperçu du caractère de Ruben, parce qu'il nous est dit déjà que Ruben s'est couché avec une des concubines de son père. Donc déjà, les trois premiers fils de Léa, on voit déjà un aperçu de leur caractère qui sort. Un commentateur a dit ceci, les fils de Léa, qui étaient donc Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Issachar et Zabulon, étaient probablement souillés par la jalousie de leur mère envers Rachel. Parce qu'on connaît la lutte, hein, donc ça continue. Ils étaient disposés à regarder Joseph, et donc le fils de Rachel, avec mépris, et à considérer les quatre fils des concubines comme inférieurs. Cette attitude hostile tendrait à unir le fils de Rachel, Joseph, et les fils de la servante dans les liens de la sympathie. Et donc Joseph est affecté ici pour travailler avec ses demi-frères, dans lequel sa relation est probablement le moins tendue. Donc il y a Gad, Aser, Dan et Neptali. Et pour allons, Jacob sentait en sécurité que son fils Joseph est avec eux et séparé des autres. Mais en tout cas, je crois qu'on voit que ce que Joseph va faire va attirer maintenant leur colère contre lui. Et il est probablement conscient de cela avant le fait. Il risque la colère des seuls frères qui pouvaient tolérer sa présence. Donc c'est pas une mince affaire de sa part. Et je pense que ça démontre son intégrité. Donc c'est démontré dans la lettre C par sa réaction face au mal. La lettre C par sa réaction face au mal. Quelqu'un peut lire la dernière phrase du verset 2. Genèse 37, verset 2. Et Joseph, qu'est-ce que fait Joseph? Est-ce que c'est une bonne chose? Mes enfants me disent, hein, au collège, au lycée, celui qui parle, ils ont plein de noms, hein, moi, je peux pas vous les redonner, mais ils ont plein de noms pour ceux qui parlent des autres élèves. Ouais, il y en a qui, il vaut mieux pas qu'on répète, même. Mais c'est pas bien vu. C'est pas bien vu de rapporter une faute aux autorités. Et Joseph le fait. Donc on voit deux choses ici. On voit la méchanceté des frères. Et en l'occurrence, on sait pas ce que c'est. Dans d'autres cas, on verra, la Bible nous dira ce que c'est. Mais ici, on sait pas. On sait pas ce que c'est. Sauf qu'on sait que c'était grave quand même. C'était une méchanceté. C'était quelque chose de honteux. C'était un péché. Et puis, de l'autre côté, en contraste, on a le récit fidèle de Joseph. Il va dire correctement à son père ce qui s'est passé. Donc, ce contraste. Eux, ils agissent mal, et lui, il dit ce qui est juste et correct. Et quelle est la motivation derrière? Je pense que ce serait mauvais d'imputer à Joseph un motif répréhensible pour dénoncer la conduite de ses frères. si on dit, il avait une mauvaise motivation, on finit par justifier ses frères. Et la Bible ne justifie pas ses frères de tout. Donc, quelles sont les motivations probables qui a poussé Joseph à raconter à son père le péché de ses frères? Il y a trois possibilités ici que vous avez, petit A, petit B, petit C, qu'on nous donne. La première possibilité, c'est que le fait qu'il dise à son père, est probablement motivé par l'intérêt ou qu'il porte pour le nom de son père. C'est ça qui va dans le trou. Pour le nom de son père. Alors si on revient sur les paroles de Jacob à Siméon et à Lévi, vous pouvez mettre 34 verset 30 à côté. Jacob dit à Siméon et à Lévi, je lis Genèse 34 verset 30, « Vous me troublez en me rendant odieux aux habitants du pays, aux Cananiens et aux Phérésiens. » Donc, Joseph a vu tout cela. Il a probablement tiré des leçons de cela, de cette expérience. Il ressent la douleur de son père pour le mal qui est maintenant fait sous le nom de la famille. Ils sont attachés à Jacob. Il veut pas que le nom de son père soit rendu odieux encore aux habitants du pays. Donc, il faut qu'il le dise pour que son père puisse faire le nécessaire. Deuxième possibilité, probablement motivé par le sentiment d'obligation envers la confiance que lui accorde son père. Le mot dans le trou, c'est le mot confiance. Il sait que son père lui fait confiance. Et d'ailleurs, plus tard, son père va lui envoyer pour savoir ce que font ses frères. Et donc, autant qu'il peut souhaiter la bonne volonté de ses frères, en premier lieu, ce qui est plus important pour lui, c'est la confiance que lui fait son père. Il peut pas trahir cette confiance qu'a son père, surtout si sa position auprès de ses demi-frères était celle de surveillant. Et puis, une troisième possibilité, probablement motivée par un désir d'agir pour le bien, de ses frères. Le bien de ses frères. Et je cite ici, « Peut-être Joseph pensait-il que la meilleure chose à faire pour ses frères égarés était de faire savoir à leur père comment ils vivaient. Mais s'il y avait une profonde sympathie entre Joseph et son père, il lui aurait été impossible de retenir quoi que ce soit qui l'intéressait profondément. L'angoisse du cœur causée par leur méchanceté grossière et sans scrupule a peut-être été écrasante et pénible pour le plus jeune d'entre eux. Car comme on l'a bien dit, si un frère est né peu s'il veut protéger plus efficacement l'innocence d'un jeune frère que tout autre parent, il peut aussi lui infliger une torture plus exquise. » Les grands frères sur les petits frères, ça marche dans les deux sens. Donc je crois qu'on a tout pour voir un caractère intègre en Joseph, en racontant à son père ce que font ses frères. Et souvent d'ailleurs, il faut exposer le péché pour qu'on puisse en traiter. C'est la même chose pour David. Pensez au roi David, il cache son péché, et puis Nathan arrive, il dit, c'est connu, on le sait, Dieu le sait, c'est toi l'homme. Et là, il n'a pas pu l'exposer lui-même, maintenant c'est exposé, il peut se repentir. Et il peut revenir à Dieu. Malheureusement, la réponse de ses frères, ce n'est pas la réponse de David envers Nathan. C'est l'hostilité. Ils deviennent hostiles envers son frère. Quelqu'un dit, la cause la plus profonde de leur haine, même s'ils ne se laissaient pas le penser, était la conviction que dans son caractère, Joseph était meilleur qu'eux. Sa sincérité innocente, son esprit chaste, sa vie pure, étaient un perpétuel reproche à leur conduite et suscitaient toujours un sentiment d'insatisfaction et d'intolérance à son égard. Un peu comme Jésus plus tard, avec les pharisiens, les scribes. Juste sa présence sainte au milieu d'eux les agace et les énerve. Et ils peuvent pas habiter en paix avec quelqu'un de ce caractère saint. Quelqu'un d'autre a dit, les malfaiteurs n'aiment jamais être démasqués, surtout par des frères plus jeunes qu'eux. Et donc, ils résistent. Donc ça, c'est le caractère intègre de Joseph. Deuxièmement, nous voulons considérer la relation de Joseph avec son père. Que dit le verset 3? La première phrase du verset 3. Voilà. Israël aimait Joseph comment? Plus que tous ses autres fils. Alors, voyez-vous un problème là-dedans? Est-ce qu'il y a un problème du côté du père? Oui. Pourquoi oui? Oui. Quelqu'un a dit, c'est pas qu'il aimait trop Joseph, c'est qu'il n'aimait pas assez ses autres fils. Bon, ils sont pécheurs, hein. Les frères sont pécheurs. Mais il y a des choses qui aident le péché, qui attisent le péché, qui provoquent le péché. Il y a des choses qui peuvent nous attirer. Nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. Ils ressentent un manque d'amour de la part de leur père. Mais on voit cet amour qu'avait son père pour Joseph, démontré d'abord par la phrase, qu'est-ce qu'il dit au verset 3? On revient sur le verset 3. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres frères, parce que quoi? Et est-ce qu'il était le dernier? Voilà, il y a Benjamin après, qui est déjà né ici, hein. Il est déjà né. Oui. Je crois que c'est ça qui ressort, parce que plus tard, la référence, c'est le chapitre 44, verset 20. Cette même phrase est utilisée pour Benjamin. Benjamin est le frère de Joseph. C'est leur maman qui meurt juste après sa naissance, hein, son petit frère. Donc, c'est probablement pas une simple référence au fait que Joseph est né dans la vieillesse de Jacob. En fait, Joseph et les 10 frères aînés sont tous nés dans une période de 7 ans. Il n'y a pas une grand espace de temps entre le plus âgé et Joseph. Donc, probablement, ça veut dire plus que il est simplement vieux quand il l'a eu. Comme on a dit, Benjamin est déjà né. Donc, on suggère que cette description a probablement un double sens. Et les deux sens pointent finalement vers la même conclusion. Joseph a eu le privilège d'être élevé non seulement sous son père, mais aussi sous son grand-père. En tant que fils aîné de l'épouse préférée de son père, aujourd'hui donc maintenant décédé, en tant que ce fils toujours jeune qui grandit, il a probablement plus apprécié la compagnie des anciens que la plupart de ses frères. Quand il arrive chez son grand-père, il a que 6 ans. Hein, ses frères sont déjà plus âgés, sont peut-être déjà dans le champ. Lui, il est peut-être gardé auprès des anciens. Comme Jacob lui-même, vous savez, a été gardé auprès de sa mère plus que son frère Ésaü. Donc le titre fait probablement référence à l'intention de Jacob de faire de Joseph celui à qui la bénédiction et la promesse de la famille seraient transmises. Probablement, il pensait, comme moi j'ai eu la bénédiction de la part de mon père, même si je ne suis pas l'aîné, je veux, lui, le fils de ma vieillesse, qu'il reçoit les bénédictions. Et donc Joseph va remplacer Ruben, Simeon, Lévi, qui ont déjà, peut-être dans la pensée de Jacob, ils ont déjà perdu leur droit à cet héritage à cause de leur péché, quand on a déjà mentionné. Et donc maintenant c'est Joseph qui a le premier rang, qui est au premier rang de ces bénédictions. Et plus tard, lorsque ce titre est utilisé de Benjamin, Jacob pense que Joseph est mort. Donc c'est maintenant lui qui a ce titre d'enfant de sa vieillesse. Mais en tout cas, on voit quand même cette relation d'amour avec son père. Et puis l'être B, c'est démontré par un don. Quel est le don que son père lui fait? Verset 3. Ah, c'est pas difficile, quand même. Voilà. Vous connaissez ça depuis votre jeunesse, je crois. Hein. Il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ouais. Donc ce don de cette tunique. Oui, et là aussi, comme dit Viviane, ça communique beaucoup de choses. C'est pas simplement que c'est à la mode ou que c'est dans son amour qu'il a pour Joseph. Il exprime ouvertement les sentiments de son cœur et les ambitions qu'il a pour lui. Et le leadership aussi, je crois qu'il veut lui donner sur ses autres frères. Le don du manteau à Joseph signifie officiellement ce que les frères ressentaient probablement depuis le début, que les regards de Jacob, leur père, étaient sur lui et pas sur eux. Et donc il est choisi pour prendre leur place, il est choisi pour être au-dessus d'eux. Leur dure existence va continuer, ils vont porter les vêtements de travail, si on peut dire ça. On parle des cols bleus, des cols blancs. Et lui, il a cette robe magnifique que lui donne son père, à lui seul. Quelqu'un dit que les distinctions vestimentaires n'étaient nulle part plus estimées que dans l'Orient ancien. Le rang d'un homme était connu par sa tenue. Et il dit que ce genre de robe n'était porté que par des riches et des nobles, par des fils des rois ou pour ceux qui n'avaient pas besoin de travailler pour gagner leur vie. Tous ceux qui devaient gagner leur pain par le travail, porter des vêtements courts et qui n'auraient pas de tâches et qui ne gêneraient pas la libre circulation des membres pour travailler. Tel était le sort des autres fils de Jacob. Mais à Joseph, son fils préféré, il lui donne cette tunique riche et belle pour démontrer sa position qu'il a maintenant dans la famille. On commence à comprendre pourquoi il y a cette hostilité. Et à ce fait, comment répondent les frères? Quelqu'un peut nous relire le verset 4, Genèse 37, verset 4? Voilà. Donc vous avez en bas de la page la réaction des frères, une hostilité grandissante et même la haine. Un proverbe qui dit qu'un favori n'a pas d'amis. Et Joseph se sent un peu comme cela, il n'a pas d'amis entre ses frères. Et puis après ce qui se passe, on voit plus de distinction entre ses frères. Maintenant ils vont former un seul bloc contre lui. Avant il y avait peut-être les fils de Léa, mais les autres qui pouvaient quand même travailler avec lui. Maintenant ils vont être dans leur camp, ils vont être tous unis contre Joseph. Et il n'y a rien qui unit des gens qu'une haine partagée. Et c'est ce qu'ils ont maintenant envers Joseph. Ils réagissent, on peut le dire, envers peut-être des injustices réelles que leur père leur a faites, cet favoritisme qu'ils montrent pour Joseph. Mais ça devient une haine contre lui, ils ne peuvent même pas lui parler. Tournez la page derrière, troisième. Parce que là, entre le côté divin ici, jusqu'à présent, c'est Joseph, Jacob, ses frères. Mais ici, nous voyons l'élection de Joseph par Dieu. Le mot qui manque, c'est le mot élection. Élection. C'est-à-dire, c'est Dieu qui choisit. Dieu choisit Joseph. Le psaume 75, vous pouvez marquer ces versets. Psaume 75, versets 5 à 8. Dieu parle et il dit, « Je dis à ceux qui se glorifient, ne vous glorifiez pas, et aux méchants, n'élevez pas la tête, n'élevez pas si haut votre tête, ne parlez pas avec tant d'arrogance, car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation, mais Dieu est celui qui juge, il abaisse l'un et il élève l'autre. » Là, ça va être Dieu qui choisit ici. Et on le sait à cause de ses rêves. Et il nous est pas dit ici que ses rêves viennent de Dieu, mais le reste de l'histoire exige, quand on comprend la fin, le dénouement de tout ce qui se passe, exige que nous les recevions comme des rêves véritables venant de Dieu lui-même. On peut se demander, mais pourquoi est-ce qu'il a partagé ses rêves avec ses frères? Est-ce que vous avez posé la question, mais pourquoi il a dit ces choses? Moi aussi, je me posais cette question. Mais on a suggéré qu'on peut comprendre Joseph qui est en train d'essayer de communiquer à ses frères ce qui lui semble être la confirmation claire de Dieu à l'action initiale de son papa, Jacob. Joseph a peut-être la mentalité qui veut offrir à ses frères des preuves qui pourraient peut-être même dissiper leur colère, comme s'il leur disait, je sais que vous n'avez pas très bien apprécié le choix que papa a fait de moi pour vous guider. Ce n'était pas mon choix, c'était le sien. Peut-être même moi, je me sentais mal à l'aise dans ce rôle, mais je devais obéir quand même à mon père. Mais la nuit dernière, j'ai reçu un rêve de Dieu qui semble confirmer la choix de Dieu sur ce que mon père a dit. Donc c'est Dieu qui le veut comme ça. C'est Dieu qui veut que j'aie ce rôle. Donc il leur raconte l'histoire, il ne cherche pas à s'imposer, mais à offrir des preuves qui pourraient suggérer à ses frères que Dieu lui-même avait choisi Joseph. Et on voit que Dieu voulait que ses frères entendent ses rêves. Il voulait qu'ils reconnaissent, 22 ans plus tard, hein, qu'il avait tenu sa parole. Ça prendra 22 ans, mais Dieu va faire en sorte que les frères acceptent que ses rêves venaient de Dieu et que Dieu a tenu exactement parole de ce qu'il avait dit. Donc tout cela est démontré par ses rêves. On s'arrête ici parce qu'on n'a plus de temps. On reviendra sur ça la semaine prochaine. Mais je vous encourage à relire chez vous ces rêves. Ça commence au verset 5. Quel est différent entre ces deux rêves? Qu'est-ce qui est pareil? Est-ce qu'il y a une répétition? Pourquoi une répétition? Plus tard, il y aura une répétition dans les rêves qu'a Pharaon. Qu'est-ce que tout cela peut nous apprendre?